100% d'Europe, Juliette Rangeval.
COVID-19.
Bonjour, le monde du tourisme européen prépare l'été et l'Europe du Sud sait qu'elle joue gros si elle veut sauver ses recettes. En Grèce, le secteur du tourisme représente environ un cinquième de l'économie locale. Le pays compte sur ses îles sans Covid, Covid-free à l'anglaise pour faire venir les vacanciers. Pour cela, le gouvernement grec a mis en place une stratégie de vaccination prioritaire sur les îles de moins de 10 000 habitants. Elles espèrent pouvoir bâtir ce qu'elles appellent un mur d'immunité face au virus et accueillir un maximum de visiteurs après une baisse de fréquentation de près de 70% l'an dernier à travers le pays. Joël Brunner, notre correspondant en Grèce, s'est rendu sur l'île de Hydra à moins de 2 heures en bateau d'Athènes.
Le tourisme, l'économie de la petite île en dépend à près de 90%. Pour attirer les visiteurs, Hydra et ses quelques 2000 habitants jouent notamment sur leur singularité d'île sans voiture. Moto et même vélo y sont aussi interdits. Le rythme de vie y est donc celui de la marche à pied, voire celui du trot des ânes et des chevaux. Spyrios Kariotis, 22 ans, est vendeur dans la droguerie familiale. Il estime que personne ne devrait avoir peur des injections contre le Covid et se fait le promoteur enthousiaste d'une vaccination qu'il s'apprête justement à effectuer quelques minutes plus tard.
Là, je vais partir à l'instant pour recevoir ma première dose de vaccin et j'en suis ravi. Je pense que nous devrions être fiers d'être vaccinés en priorité ici sur l'île. Nous devrions aussi faire passer le message à tout le monde de se faire vacciner pour ensuite venir sur notre île et la visiter sans présence de Covid.
En plus des chambres à louer chez l'habitant, Hydra compte une vingtaine d'établissements hôteliers, dont celui que dirige Hilda Exian, également vice-présidente de l'Association des hôtels de Lille. Elle évoque pour l'an dernier une baisse de fréquentation de 60% par rapport à 2019.
J'ai déjà eu mes 2 injections de vaccin, le Pfizer, donc je suis protégée, en tout cas je l'espère. Malgré tout, nous continuons à porter des masques et à prendre nos précautions parce que nous n'en avons pas encore fini avec le Covid en général. Les touristes, eux, peuvent à présent venir en Grèce s'ils sont vaccinés ou avec un test PCR négatif de moins de 72 heures. Donc de ce point de vue-là aussi, nous devrions, espérons-le, être protégés.
L'hôtelière, qui se veut positive, ne peut s'empêcher d'avoir malgré tout quelques doutes.
Tout est nouveau à présent, même le vaccin lui-même. Nous sommes protégés par ce vaccin, mais nous ne savons pas exactement dans quelle proportion et pour combien de temps. Mais le point positif, c'est que la majorité de la population de Hydra est à présent vaccinée. Au moment où je vous parle, il n'y a aucun cas de Covid ici. J'ignore l'avenir, mais aujourd'hui, nous sommes une île zéro Covid.
Le principe d'île baptisée Covid-free ou zéro Covid est bien sûr un argument publicitaire élaboré au niveau national. Mais sur place, toute une logistique a été nécessaire à l'affichage d'un tel slogan. À Hydra, plutôt que les formulaires nationaux à remplir en ligne, c'est la solution des appels personnalisés qui a été privilégiée, comme l'explique Georges Koukoudakis, le maire de l'île.
La municipalité a prévenu les gens individuellement par téléphone pour organiser la vaccination, et cela pour l'ensemble des résidents locaux qui vivent ici de manière permanente. Ce résultat est dû au travail de la maire adjointe, Madame Katsika, qui est en charge des programmes de protection sociale. Cela n'a pas été une tâche facile pour une seule personne de passer plus de 2000 coups de fil pour planifier des rendez-vous, et cela à 2 reprises, parce que nous administrons ici à Hydra le vaccin Pfizer et qu'il y a 2 doses à injecter, ce qui signifie un total de plus de 4000 appels passés et de rendez-vous pris.
Le maire concède quelques exceptions à la vaccination. Pour les résidents étrangers, les choses sont parfois plus compliquées, par exemple. Mais il est fier d'affirmer que 100% des Grecs de Hydra qui souhaitent être vaccinés devraient pouvoir l'être d'ici la fin mai. La campagne, en tout cas, est toujours en cours sur l'île et se tourne à présent vers les plus jeunes. Roby Samani, serveur hydriote d'origine albanaise, travaille dans un restaurant depuis 2 ans.
C'est une question d'âge. J'ai 19 ans, donc d'ici peu, sans doute cette semaine ou la suivante, je recevrai ma première dose. Et 20 jours plus tard, la seconde. Je pense que je n'ai pas vraiment le choix. Ce n'est pas exclu que le vaccin devienne obligatoire à l'avenir, que ce soit pour travailler ou voyager à l'étranger. Donc je vais le faire dès maintenant pour ne plus avoir à y penser.
La dernière saison estivale a été poussive et marquée par l'absence de certaines nationalités, comme les Américains. Mais avec la vaccination, l'heure est à l'optimisme, comme pour celle qui se présente simplement comme Dimitra et qui n'a pas son pareil pour vanter les charmes de Hydra, sa beauté et son harmonie. Secondé du capitaine Dimitris, le couple propose des excursions aux touristes qu'ils attendent avec impatience sur leur bateau en bois.
Nous avons été récemment vaccinés et nous en sommes très contents. Nous avons pris toutes nos précautions et nous attendons maintenant de pouvoir accueillir tout le monde.
En s'affichant comme des destinations supposées zéro Covid, les îles grecques de moins de 10 000 habitants, comme Hydra, espèrent ainsi se vacciner aussi contre les mauvaises saisons.
Dans ce nouveau monde qui se construit peu à peu, comment éviter les dérives des systèmes à base d'intelligence artificielle, comme la reconnaissance faciale par exemple? En Russie, la vidéosurveillance est partout dans les villes et ces dernières semaines, ce sont les Russes sortis manifester pour demander la libération d'Alexeï Navalny qui en font les frais, Jean Cassin.
Et oui, on se demandait, après les dernières manifestations de soutien à Navalny mi-avril dernier, pourquoi si peu d'arrestations avaient eu lieu par rapport au bilan habituel qui est des centaines, voire des milliers d'arrestations, souvent très violentes. Presque tous les défilés s'étaient cette fois-ci déroulés dans un calme relatif. Les militants d'opposition s'en étaient à l'époque félicités, mais sans vraiment réaliser la raison de cette bienveillance policière. Et puis dans les semaines qui ont suivi, on a commencé à comprendre. Dans toutes les villes où des manifestations avaient eu lieu, les gens ont commencé à recevoir des visites de la police à leur domicile, à être convoqués au tribunal, à recevoir des amendes ou des peines de détention administrative. Et il s'avère que tous ces gens ont été repérés et identifiés par les caméras de vidéosurveillance de leur ville. D'après plusieurs sources dans les services de sécurité russes, c'est la nouvelle technique pour lutter contre les manifestations. Arrêter en masse, c'est compliqué, ça engorge les prisons, on retrouve dans la presse des images assez choquantes, cela fait scandale, engendre des condamnations internationales. Alors que si l'on laisse les manifestants s'épuiser à marcher, puis rentrer tranquillement chez eux, et qu'on les identifie ensuite par vidéosurveillance, alors on peut étaler les arrestations sur plusieurs semaines. Et puis surtout, l'effet psychologique est bien plus fort. Maintenant, il n'est même plus possible d'aller manifester en se disant que l'on restera loin de la police, loin des échauffourées. Quoi que l'on fasse, on risque de toute façon de se faire arrêter.
La vidéosurveillance est donc omniprésente en Russie ?
Oui, c'est un système qui est apparu peu à peu depuis le début des années 2000, mais qui est réellement devenu massif à partir de 2011. Aujourd'hui à Moscou, il y a plus de 200 000 caméras de vidéosurveillance. C'est encore moins qu'à Londres, mais c'est déjà beaucoup plus qu'à Paris. Et beaucoup d'autres grandes villes russes se sont aussi équipées. Alors le système est encadré par des lois assez strictes sur la conservation et l'accès aux images. Mais comme très souvent en Russie, le problème est dans la différence entre la théorie et la pratique. La corruption est partout, n'importe qui peut acheter ces images, personne ne peut vérifier qu'elles ont bel et bien été effacées à temps. Et puis même si la loi ne le prévoit absolument pas, le réseau russe de vidéosurveillance est associé à un système de reconnaissance faciale automatisé. Cela a été admis pour la première fois au printemps dernier, quand la mairie de Moscou avait envisagé de l'utiliser pour verbaliser automatiquement les gens qui auraient violé le confinement. Et maintenant, cela sert à identifier les opposants sortis manifester.
Et donc, cette utilisation de la vidéosurveillance fait partie d'un ensemble répressif contre les opposants.
Oui, clairement, dans la foulée des manifestations de ces derniers mois, le tour de vis est général. D'une part, il vise les structures d'opposition, les militants, les chefs. Le réseau des QG de Navalny, ce sont des représentations régionales, a été déclaré extrémiste, forcé à la dissolution. Le FBK, l'organisation qui menait les grandes enquêtes anticorruption de Navalny, a lui aussi été interdit et forcé de fermer. La plupart des proches de l'opposant sont en exil, en prison ou bien en passe d'y aller. Puis c'est aussi une attaque contre les médias indépendants, des sites d'information comme Medusa, très populaires, comme V-Times, qui produisent tous les deux de l'information indépendante de très grande qualité, ont été reconnus agents de l'étranger, ils ont perdu tous leurs annonceurs, leur survie est en question. Le local de Radio Svoboda, c'est l'antenne russe du groupe américain Radio Free Europe, a été placé sous scellé. Et puis cela touche aussi les simples sympathisants, certains, on le disait, ont été arrêtés après avoir été manifestés. D'autres ont eu des ennuis après s'être inscrits sur un site internet mis en place par les équipes Navalny et qui devait permettre à ses partisans de se compter. Le site a été piraté et les noms et les adresses de tous les participants ont fuité. Ils ont reçu des mails de menaces et certains ont perdu leur emploi.
La Commission européenne a publié son projet visant à encadrer la reconnaissance faciale. Alors tout ne sera pas interdit, contrairement à ce que demandait une cinquantaine d'organisations de défense des droits numériques, Lakshmi Lotha.
La technologie pour effectuer une surveillance de masse est controversée. Trop intrusive, elle ne respecte pas la législation de l'Union européenne sur la protection des données. Les citoyens ne peuvent pas exprimer leur consentement avant utilisation de leurs données biométriques. La reconnaissance faciale est déjà utilisée dans plusieurs pays européens. En Allemagne, elle a servi à retrouver certains manifestants lors du sommet du G20 en 2019. Un programme a même été financé par la Commission européenne pour mettre en place une sorte de détecteur de mensonges à plusieurs postes frontières, en Grèce, en Hongrie et en Lettonie. Baptisé High Border Control, il évalue la supposée fiabilité de la personne. Un détecteur de mensonges par reconnaissance faciale qui redirige ensuite les passagers soit dans les files d'attente rapides, soit vers des contrôles plus poussés. Objectif, trouver ceux qui voudraient entrer illégalement sur le territoire. Pour dénoncer les dérives de la reconnaissance faciale, près de 50 000 personnes ont signé une pétition intitulée « Reclaim your face », « Récupérez votre visage ».
Et l'ACSMI, la Commission européenne, a donc publié un projet pour mieux encadrer cette technologie.
Effectivement, par exemple, tout ce qui pourrait servir à noter les citoyens selon leur comportement pour leur donner accès ou non à un service est interdit. Identifier des personnes en temps réel dans l'espace public ne sera pas non plus possible, mais cette technique pourrait être utilisée dans le cas d'une recherche d'un enfant kidnappé, par exemple, ou pour des personnes ayant commis des crimes. Cette proposition doit encore être approuvée par le Parlement et le Conseil.
Nicola Sturgeon, Nicola Sturgeon.
Au Royaume-Uni, le bras de fer entre Boris Johnson et Nicola Sturgeon a commencé. La première ministre écossaise, dont le parti vient de remporter les élections locales, demande un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Le premier ministre britannique n'en veut à aucun prix. Portrait de l'indépendantiste écossaise Nicola Sturgeon avec Béatrice Leveillé.
The people of Scotland have the right to choose their future.
Le peuple écossais a le droit de choisir son avenir. Concentrons nos efforts pour bâtir un pays meilleur pour nos enfants. Ils le méritent. L'indépendance est devant nous.
Nicola Sturgeon est tombée très jeune dans la marmite indépendantiste. Sa mère était une élue locale du SNP, le Parti national écossais. Elle n'a pas 30 ans quand elle fait son entrée pour la première fois avec l'étiquette du SNP au Parlement écossais, puis au gouvernement. Malgré ce parcours sans faute, l'indépendance reste encore hors de portée pour la première ministre écossaise. Nathalie Duclos, maître de conférence à l'Université de Toulouse.
Il faut savoir que le SNP est au pouvoir en Écosse depuis 2007, sous la direction de Nicola Sturgeon depuis 2014. Elle a beau avoir eu de très bons résultats, c'est de Londres que tout va dépendre.
En 2014, les Écossais se sont exprimés à plus de 55% contre l'indépendance de l'Écosse. Deux ans plus tard, à 68%, ils rejetaient le Brexit. Pour Nicola Sturgeon, la marche vers l'indépendance doit reprendre car la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne change la donne. Mais ce référendum qu'elle appelle de ses vœux n'aura pas lieu prochainement pour Edwige Campietrin, professeur à l'Université des Hauts-de-France, auteur de L'impossible indépendance écossaise, publié chez Atland.
À titre personnel, elle est extrêmement prudente. Puis elle sait aussi qu'actuellement, l'opinion publique écossaise reste très, très, très mitigée. On a entre 45 et 50% de personnes prêtes à voter pour l'indépendance. Ce n'est peut-être pas tout à fait suffisant. Ensuite, le contexte immédiat n'est évidemment pas propice du tout. Elle l'a reconnu elle-même. Il faut d'abord sortir des contraintes et des restrictions liées à cette pandémie. S'en suivra probablement une récession, voire une crise économique, donc ce qui signifie que le contexte économique n'est pas non plus très très favorable, alors que le SNP axe vraiment son nationalisme sur l'économie. L'idée est de permettre aux Écossais d'accéder à l'indépendance pour pouvoir gérer leurs propres affaires et surtout leurs propres ressources.
Nicola Sturgeon est pragmatique. Ses marges de manœuvre sont d'autant plus étroites que, contrairement aux indépendantistes catalans, elle ne tentera rien d'illégal. Edwige Campietrin.
Pour elle, la Catalogne, c'est le contre-exemple absolu. Nicola Sturgeon veut vraiment un référendum légal reconnu à l'intérieur du Royaume-Uni par le gouvernement britannique, de manière à pouvoir négocier les conditions de l'indépendance, mais un référendum également reconnu à l'extérieur, et notamment au sein de l'Union européenne, pour permettre à une Écosse indépendante d'entrer à nouveau au sein de l'Union européenne.
Pour éviter la rupture, Boris Johnson est contraint d'utiliser l'argument des opposants à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On est plus fort ensemble.
Ah.
Un avant-goût de la réouverture des lieux culturels en France. Ce mercredi, Accent d'Europe vous emmène au musée avec en avant-première une exposition présentée à la Cité internationale des arts à Paris. Ça s'appelle « Répare, reprise » à l'initiative de l'association Portes ouvertes sur l'art. Elle réunit des artistes du Moyen-Orient et d'Afrique qui ont pour la plupart connu l'exil et ont été accueillis en Europe. Juliette Gerbrand.
Bon, bienvenue à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là.
Des photos, des broderies qui représentent des frontières, un pavé posé au sol, sur une vidéo, le cri silencieux d'une douleur que personne ne veut entendre. L'expo Répare, reprise, sous l'égide de sa commissaire Nora Philippe, va bien au-delà de la collection de récits d'exil. Elle réunit des artistes qui tentent de recomposer et réparer à la fois l'histoire avec un grand H et les petites histoires de l'intime. Comme dans cette vidéo où une jeune Syrienne, inlassablement, remonte un chemin pentu en poussant un ballon de foot qui lui échappe. L'artiste Randa Madar est originaire de Majel Shams, un des rares villages syriens du plateau du Golan occupé par Israël.
Vivre sur le Golan, être tous les jours face à ce qu'Israël nous impose, ça demande beaucoup d'efforts. On doit se battre pacifiquement, même si on sait qu'on n'obtiendra rien. On ne peut pas changer cette réalité. Alors je me suis saisie du mythe de Sisyphe pour en faire une métaphore de la situation du Golan, de l'absurdité de la résistance comme un acte symbolique.
Sur un autre écran, les villages, la frontière, les collines défilent. La caméra tourne sur elle-même de plus en plus vite, jusqu'à ce que l'image se fonde en un blanc aveuglant. L'illustration, pour Randa Madar, de la situation des Syriens sur le plateau.
J'ai toujours l'impression de flotter quand je suis sur le Golan. Flotter entre deux endroits, deux mondes. On vit sur la ligne de cessez-le-feu, on peut communiquer avec les gens de l'autre côté en criant. On les voit, mais on ne peut pas les rejoindre. En plus, j'ai de la famille qui vit encore en Syrie. Et oui, c'est quelque chose d'étrange de ne pas avoir une identité claire, parce qu'on a refusé de prendre le passeport israélien. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis indéfinie, je n'ai pas de nationalité.
Des œuvres pour faire vivre les Syriens du Golan oubliés par le monde, dénonce Randa Madar, qui continue à filmer sa région d'origine, mais poursuit son travail à Paris, où elle est arrivée en 2016 pour étudier aux Beaux-Arts.
Khaled Dawa est sculpteur, il a travaillé beaucoup autour des figures du pouvoir.
Dans une salle tapissée de noir, une autre Syrie apparaît. C'est l'œuvre la plus imposante de l'exposition. Sur 5 mètres de long, une rue en ruine du quartier de la Ruta. Des immeubles éventrés, des gravats et une foule de minutieux détails.
Il y avait une réflexion autour de ce que les médias ont produit d'images de la Syrie et qu'elle n'était pas forcément le moyen de développer une quelconque empathie avec ce qui s'y passait.
Ces images médiatiques ont oublié le vivant, explique Khaled Dawa, qui s'est inspiré de ses souvenirs.
Je vois seulement la guerre. Je vois seulement le désert. Quand on voit un quartier complètement cassé, on ne pense pas qu'il y a des enfants, il y a des familles. Il y a des familles que je connais dans ces maisons. Il n'y a pas des parcs en Syrie pour les enfants jouent, tous les enfants jouent ici. Après, il y a le mec qui met la musique très haut et tous les voisins écoutent ça, c'est normal. Et pour moi, c'était une soirée d'été.
En s'approchant, on aperçoit derrière une fenêtre un petit tableau accroché au mur. Plus loin, des tables et des chaises derrière une façade éventrée. Là encore, un miroir brisé et dans la rue, la forme d'un corps, mais aussi de l'herbe qui repousse. Khaled Dawa veut ajouter une bande-son et un éclairage à son œuvre et il a transposé dans cette salle d'exposition un petit morceau de son atelier où il vient tous les jours. La sculpture « Ceci est mon cœur » n'est pas terminée.
Non, pas encore, je travaille. Je pense que j'ai besoin de 2-3 mois. Ça fait 3 ans maintenant, je refais. Peut-être, comme je le finis, ça ne me plaît pas. Je tire, je casse, je fais un autre. Bon, juste trouver la forme, je ne sais pas.
Répare, reprise, dit le titre de l'exposition. Et repriser, c'est ce que font Khaled Dawa et de nombreux artistes, reprendre l'ouvrage encore et encore, comme pour mieux s'ancrer dans la vie.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur rfi.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.